Anthony Hamon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes actuellement en doctorat, vous allez finir votre thèse le 31 mars prochain, vous allez la soutenir. Et vous avez été pendant votre doctorat représentant des doctorants de Rennes 2, c'est ça?
Oui, c'est cela.
Et donc vous avez été au cœur peut-être de ce qui a été la LPPR, qui a été votée promulguée le 24 décembre 2020, et dont la concertation avait été commencé à s'organiser fin 2019 avec le mouvement contre les retraites. Et mouvement de contestation qui a été brisé par le confinement et loi qui a été promulguée. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette loi de financement pluriannuel de la recherche ?
Il y avait plusieurs choses, hein, plusieurs éléments. Notamment, je vais me concentrer surtout sur l'aspect en ce qui concerne les jeunes chercheurs. Notamment, l'instauration... De postes contractuels d'un an de professeur. L'idée, c'est clairement de mettre un terme à la titularisation et aux emplois à plein temps dans la recherche universitaire. On a jusqu'à maintenant le grade de maître de conférence, puis ensuite le grade de professeur d'université. Le but de la loi LPPR à long terme, c'est de uniquement titulariser les professeurs d'université et que les maîtres de conférences deviennent un statut de contractuel. Et ça commence à partir de cette année, hein, c'est à partir de cette année, de l'année prochaine, l'année de septembre 2023, que cette mesure va rentrer en vigueur. Hein. On a plusieurs annonces là actuellement d'offres d'emploi à Angers et à Rennes également. Hein. Donc c'est des postes de professeurs, mais de seulement un an. Ça n'existait pas avant. Et ça, c'est une invention, une innovation entre guillemets de la loi LPPR. Et donc ce sont des contrats renouvelables donc trois fois, hein, donc jusqu'à trois années de suite, uniquement à la discrétion des universités. Et donc c'est une loi, enfin cette mesure incarne à mon sens plutôt bien la loi LPPR, hein, dans la mesure où elle vise clairement, où elle précarise, où elle entraîne plutôt une précarisation de la recherche, et notamment pour les jeunes chercheurs, hein, qui on va peut-être en reparler dans un instant, mais vivent déjà les années, enfin leurs années de recherche, notamment leurs années doctorales, sont pour beaucoup extrêmement déjà précaires.
On l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, la précarité des jeunes chercheurs et des doctorants notamment. Comment est-ce qu'on finance sa thèse maintenant? Comment ça se passe pour financer sa thèse?
Alors, il y a plusieurs types de financement. L'idéal, évidemment, c'est d'obtenir un contrat doctoral. Alors, il y a plusieurs types de contrats doctoraux. Il y a des contrats doctoraux d'établissement, donc qui sont rémunérés par l'université. On a des contrats doctoraux régionaux, qu'on appelle des AREDS, qui, eux, sont c'est des financements régionaux. Et on a enfin des contrats CIFRE, donc c'est des contrats qui sont financés par une entreprise. En dehors de ces contrats, il faut savoir, un chiffre qui est assez dramatique, j'ai envie de dire, hein, il y a seulement en sciences sociales, donc je compte l'histoire dedans, la sociologie, etc., seulement un doctorant sur trois sont financés. Ça veut dire que les éléments que je vais aborder dans un instant concernent deux doctorants sur trois en sciences sociales. Et donc, comment on fait pour financer son doctorat? Eh bien, on travaille à côté. Tout simplement, on travaille à côté. Alors, beaucoup travaillent dans le secondaire en tant qu'enseignant, hein, au collège, au lycée. Donc, c'est très compliqué. Hein. C'est peut-être même la pire situation, à mon avis, pour travailler sur sa thèse. Généralement, quand on s'inscrit en doctorat, on doit être en mesure de prouver qu'on sera capable de gagner sa vie à côté.
On a parlé de la recherche de financement juste avant. Pour améliorer peut-être l'attractivité des universités, l'un des projets mis en avant par le gouvernement, par l'Union européenne aussi, c'est celui de la fusion d'universités, créer de grands établissements pour être plus attractifs et aller chercher des financements privés. Qu'est-ce que ça change, ça, pour le monde de la recherche et peut-être en particulier pour les sciences sociales?
Il faut bien se dire déjà que le gouvernement, quand il prend ce genre de mesures, il ne pense pas aux sciences sociales. Hein. C'est des mesures qui sont généralement prises pour les autres sciences. Hein. Je n'aime pas trop ce terme, mais les sciences dures. Quoi. Nous, les sciences sociales, on passe ensuite... Euh, on, on, on subit le contre-coup en fait de la réforme. Pour les finances en privé, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Alors, bien sûr, ça peut toujours se trouver. Ça pose évidemment des questions d'éthique et d'indépendance de la recherche. Hein. Ça dépend de quel financeur privé on parle. Moi, j'ai un exemple d'un ami qui avait un contrat CIFRE, donc un contrat d'entreprise. Donc là, c'est même pas encore... Mais bon, les contrats CIFRE hein, sont voués à devenir de plus en plus nombreux, qui travaillait chez un grand groupe pharmaceutique. Il travaillait dans les archives. Et du coup, il n'avait pas le droit... Hein, il avait travaillé une temps sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Un groupe pharmaceutique qui avait un peu, je ne vais pas dire collaboré, mais qui a vu, il y a quand même quelques séquences un peu troubles, il n'avait pas le droit d'évoquer cette période-là, quoi. Il n'avait pas le droit d'évoquer ces éléments-là. Donc il y avait quand même une censure, et il y a une censure liée à l'entreprise, mais il y a également une autocensure de l'historien qui va dire si j'en parle, ça ne va pas me porter préjudice vis-à-vis de mon employeur. Donc. Et c'est peut-être cette autocensure, c'est peut-être la plus importante. Donc, c'est même pas un problème d'éthique générale, c'est un problème d'éthique personnelle déjà, que ce genre de réforme peut poser.
Justement, à Rennes, récemment, il y a eu la création de l'Université de Rennes qui a été inaugurée le 1er janvier 2023. Rennes 2 ne participe pas, ou alors pas vraiment, c'est assez complexe comme participation. Rennes 2 sera en lien avec l'Université de Rennes, mais n'est pas dans cette université-là. Qu'est-ce que ça va changer concrètement à Rennes pour le département de sciences sociales, par exemple, pour les chercheurs?
Je pense que dans les années qui viennent, les années immédiates, pas dans 10 ans, par exemple, les années immédiates, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Pourquoi ça ne change pas grand-chose? Parce que justement, Rennes 2, comme vous le dites, reste un peu à l'écart de ce mouvement. Alors moi, j'étais, hein, du coup, c'est la commission de la recherche qui a notamment géré les négociations avec le projet, qui s'occupait du projet d'unité des universités rennaises. On a refusé, évidemment, cette fusion, dans la mesure où on savait très bien que les sciences sociales, et même on pourrait même dire Rennes 2, l'université Rennes 2 en général, seraient les perdants de cette fusion. Dans la gouvernance de l'université, Rennes 1 et d'autres pôles universitaires, comme par exemple l'Agrocampus, etc., acceptaient d'instaurer les garde-fous qui permettaient à Rennes 2 d'avoir quand même de garder un pouvoir décisionnel. On sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que les financements, déjà à l'échelle du ministère de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, c'est des financements fléchés. On sait très bien que de toute façon, dans les années qui auraient suivi, s'il y avait eu cette fusion d'effectuer, ça aurait entraîné un appauvrissement du département des sciences sociales. Et malheureusement, je pense que de toute façon, on va vers là.
Et on a parlé justement un peu de modèle et d'aller vers le modèle anglo-saxon ou modèle québécois. Vous, quel modèle en tant que jeune chercheur en sciences sociales vous souhaiteriez voir revenir, ou voir quelles sont les réformes que vous metteriez en avant en tant que jeune chercheur et pour la recherche en général?
Ça, c'est compliqué. ça dépend à partir de quel bord on voit les choses. Est-ce qu'on s'intéresse d'abord à l'enseignement, à l'aspect enseignement, ou est-ce qu'on se focalise seulement sur l'aspect recherche? Si on se focalise sur l'aspect recherche uniquement, déjà, il faudrait, à mon avis, augmenter le nombre de contrats doctoraux financés. C'est pas normal que seulement un tiers des doctorants qui sont en sciences sociales soient financés, un doctorant contractuel, il est un peu dans une situation précaire. C'est encore pire pour un doctorant qui n'est pas financé, vous vous en doutez bien. Donc l'augmentation des contrats d'auto, avec aussi une augmentation de création de postes, évidemment, de maîtres de conf, hein, de maîtres de conférences. Parce que bon voilà, c'est un, y a une diminution du nombre de créations de postes, hein, des postes qui ne sont pas maintenus quand il y a des départs en retraite par exemple, ces postes-là sont généralement remplacés par des contractuels, et par des vacataires. Je regardais avant de venir parce que vous m'avez parlé de que je savais que j'allais être interrogé là-dessus. J'ai regardé les chiffres, hein, je crois que c'est 55 à 60%. Alors je parle pour, je crois que c'est en 2020. En 2020, soit 50 à 60% des enseignements dispensés à l'université en France étaient l'œuvre de contractuels. C'est assez énorme. Alors les étudiants, hein, des étudiants, étudiantes en L1, en L2, souvent ne se rendent pas compte, ne font pas trop la différence entre un vacataire normal qui a 2 heures ou 3 heures d'enseignement à l'université par semaine et un titulaire qui est là, un bien installé, un professeur d'université qui n'a pas du tout la même charge de cours. Mais il y a un impact sur la qualité de l'enseignement. Un vacataire, je ne parle pas de la qualité ou de l'éthique du professeur ou concerné. Hein. Je parle vraiment, c'est juste que bon, quand on est vacataire, on a 2 heures ou 3 heures d'enseignement à l'université, on a d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire. Donc on n'est pas autant concerné par ce qu'on fait qu'un PU ou un maître de conf. Donc ça c'est pour moi l'augmentation évidemment des nombres de postes titulaires me paraît absolument nécessaire.
Anthony Hamon, merci beaucoup.
Je vous remercie de m'avoir invité.
Merci à vous et on vous souhaite bonne chance pour votre soutenance prochaine.
Merci.